Nous retrouvons l'académicien et essayiste Éric Orsenna. Vous y croyez-vous à cette recomposition de la vie politique française, celle que narre Frédéric Saïs chaque matin au micro?
Écoutez, on sait bien que le système précédent était bloqué. Donc, à un moment donné, il fallait, comme tout système qui arrive au bout d'une certaine impuissance, engendre quelque chose d'autre. Donc, on est dans la phase d'éclatement, on voit bien. Et puis, à un moment donné, il y aura une recomposition. Comment ça va se présenter? Mais c'est vrai qu'on est dans cette phase la plus douloureuse, avec la dimension financière que vous avez extrêmement bien expliquée, avec cette différence très très claire entre le mouvement et puis le parti. Parce que le parti, non seulement il s'appuie sur des ressources financières, mais il s'appuie aussi sur des postes, c'est-à-dire la possibilité pour des gens de vivre de la politique. Et une autre dimension qu'on peut rajouter, c'est que est-ce que la politique, c'est un métier ou est-ce que c'est une mission? Est-ce que c'est une carrière ou est-ce que c'est un moment dans la vie? Un des critères d'En Marche, c'est pas plus de 3 mandats. On peut considérer que si qu'après avoir exercé 3 mandats, on peut quand même faire autre chose, parce que d'abord on pourra être mieux renseigné sur les autres points de vue qu'on peut avoir dans la société, et puis normalement on doit représenter l'ensemble de la nation.
Mais c'est pas un peu démagogique cela, Éric Orsenna? C'est comme si je vous disais, bah après tout on peut s'improviser, je ne sais pas moi, académicien, écrivain, chaque métier a ses spécificités, après tout le métier de politique c'est un vrai métier.
Écoutez, je pense franchement que c'est plus une mission qu'un métier. Parce que évidemment, il faut l'apprendre. Enfin, on peut imaginer que si vous avez 3 mandats, bah, si vous êtes passionné par ces questions, vous passez un demi-mandat pour apprendre, 2 mandats et demi pour exercer, et puis ensuite vous passez la main. Autrement, vous avez des situations complètement figées et des sortes de petites rentes. Des rentes locales, les rentes régionales. Et donc, il faut quand même qu'il y ait un renouvellement. Dans ce brassage général des populations, comment peut-on dire qu'on va donner une place aux jeunes en verrouillant tout et en disant bah, « vous pouvez faire 6 mandats ».
Ensuite, l'idée qu'il y a des idées bonnes à droite et à gauche, est-ce que ça n'est pas faire fi des idéologies? Vous, par exemple, vous avez toujours été engagé à gauche. Est-ce que, franchement, ça vous plaît d'être associé à des gens qui viendraient de la droite, alors que vous avez combattu pendant de nombreuses années ces idées-là?
J'ai eu 2 grandes expériences qui ont été pour moi sans doute les plus intéressantes de ma vie, disons, administrativo-politique. La première, c'était la commission Attali. Et c'était d'ailleurs clé, puisque c'est là où on a remarqué le talent d'Emmanuel Macron. Donc rendons hommage à Jacques Attali qui a lancé cette grande consultation pour libérer les forces de la croissance en France, c'est-à-dire le déploiement. Et une autre expérience, c'était ce qu'on appelait la commission du Grand Emprunt, qui était co-dirigée par Michel Rocard et Alain Juppé. Et là, franchement, pendant 3 mois de travail très soutenu, on a vu ce que pouvait être une vision un peu commune de la France. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas travailler avec ces gens-là? Et comme, en plus, dans les deux parties, et on les a vus au moment des primaires, il y avait des dérives vers une sorte de crispation avec les frondeurs. Moi, j'ai du mal à me reconnaître dans la gauche des frondeurs. De la même manière que les juppéistes ont du mal à se reconnaître dans les crispations d'une droite quand même qui n'est pas si loin que ça du Front National.
Mais est-ce que ça n'est pas finalement donné raison à Marine Le Pen qui parle du MPS?
Écoutez, elle est de avec une sorte de, moi pour ma part, hein, de vraie malhonnêteté. On revient à la situation actuelle. Notre monde, il est complexe. Il est de plus en plus complexe. Face à ce monde complexe et violent, on a tendance à s'accrocher à des idées simples. Mais dans un monde complexe, les idées simples sont fausses. Et c'est pour ça que c'est tellement important ce que vous faites, ce qu'est la culture, tellement important pour expliquer la complexité du monde et ne pas s'accrocher au mensonge qui est confortable puisque le mensonge est simple. Et alors en allant plus loin, c'est encore plus compliqué parce que moi je suis pour une culture unique, je suis pour un bac unique et qu'on commence pas des options dès le CP. et qu'il n'y a pas de culture littéraire et de culture scientifique. Moi, je suis d'origine littéraire, mais on peut, en faisant un minimum d'efforts, comme on le voit avec les moustiques, en entomologie, en biologie, on peut comprendre. Et c'est une même culture. Et après, on se spécialise. Et donc, vous voyez, ce monde aujourd'hui, vraiment, c'est pour ça que, je vais vous dire, de toutes ces recompositions, c'est intéressant, mais le vrai chantier, c'est l'éducation nationale. Et c'est notre rapport à la connaissance.
Vous êtes essayiste, vous êtes romancier, Éric Orsenna. Emmanuel Macron, c'est un personnage de roman ?
Alors, son histoire est évidemment un personnage de roman, depuis le début. Le début, c'est vrai que sa jeunesse, c'est vrai que la ville d'Amiens que je connais bien, c'est vrai que le personnage de sa grand-mère, le personnage de sa femme, toute cette accélération, c'est évidemment un personnage incroyable, comme était aussi François Mitterrand, complètement différent.
Vous savez, pourquoi parce que le fait d'avoir une grand-mère, pour ceux qui ont la chance de l'avoir connue, enfin tout ça n'est pas véritablement.
Non, mais quelle grand-mère et quelle et
je
quelle...
vous pose la question parce et, que oui, moi quelle...
Non, mais quelle grand-mère, c'est-à-dire quelqu'un qui est présent sans arrêt, quelqu'un qui reconnaît en son petit-fils qui est un peu particulier, et quelqu'un surtout...
Particulier,
oui, c'est-à-dire il était assez exceptionnel de dons et d'ouverture et de gourmandise. Vous savez, j'ai parlé avec lui de sa grand-mère, et elle lui répétait sans arrêt la phrase qu'au fond... il va essayer de porter aux Français, c'est-à-dire c'est possible. Qu'est-ce que la politique ? C'est l'art du possible. C'est pas la jérémiade sur l'impossible. La jérémiade sur l'impossible, encore une fois, c'est la rente. Donc la politique, c'est vraiment l'art du possible. Donc c'est pas la manipulation à partir des illusions.
On dit d'Emmanuel Macron qu'il serait capable de séduire une chaise. Semble-t-il, le charme a opéré sur vous, même si vous n'êtes pas une chaise.
Non, j'essaye d'être un fauteuil. Le fauteuil 17 à l'Académie. Voilà.
En tout cas.
Et donc, mais vous savez, je suis séduit parce que je. Pas séduit, c'est-à-dire que j'ai de l'affection pour lui, j'ai de l'admiration pour son parcours, mais figurez-vous, je serais libre. Donc je ne voudrais aucun poste, jamais aucun poste. Il y a eu des petites pressions, ministre, pas question.
Vous ne serez pas ministre.
Ah non, bien sûr que non. Moi, je préfère la liberté et je pense que je peux être plus utile dans la liberté. Vous savez, j'ai retrouvé la phrase du général de Gaulle sur la dictature et ma position, c'est pas à 70 ans qu'on commence une carrière de ministre.
Mais au-delà de ça, donc le fait que ce soit un séducteur, c'était le cas d'autres hommes politiques, je crois que Mitterrand n'était pas...
Mais ils sont tous séducteurs. À Mitterrand, je vais vous dire, il était incroyable. Moi, j'ai vu Mitterrand avec des acteurs incroyables, je l'ai vu avec, je sais pas, Annie Girardot, il l'avait invité pour l'écouter, en fait, il l'a jamais écouté, il a parlé lui, et Annie Girardot, à la fin, en partant, me dit « Et il paraît que c'est moi l'actrice.
» Ça n'est pas cela, en réalité, qui fait qu'une politique réussit ou ne réussit pas. Il y a même des hommes politiques plutôt ternes qui ont réussi à mener à bien leur politique. Pourquoi Emmanuel Macron réussirait-il, au-delà donc de sa jeunesse, du fait qu'il soit très séduisant, de son intelligence et de sa culture ? Parce que tout cela, c'est quand même propre à beaucoup d'hommes politiques.
Non, mais c'est intéressant votre phrase. Pourquoi réussirait-il ? On peut poser la question inverse. Pourquoi ne réussirait-il pas ?
Parce que beaucoup d'autres ont échoué.
Oui, mais
avant.
Oui, mais c'est pas une raison. Beaucoup d'autres ont fait des émissions, pas évidemment à votre antenne, mais ailleurs, qui étaient des émissions particulièrement ennuyeuses. Et vous réussissez une émission formidable. Donc pourquoi vous réussissez ?
Vous essayez vous aussi.
Mais oui, je suis un politique. Je suis pas amateur et libre, mais je suis un politique. Pourquoi toujours commencer par le négatif ? C'est ça l'affaire. Vous savez, sur le programme de la culture d'Emmanuel, on a été quelques-uns à y travailler. C'était quoi le résumé ? C'était l'audace de la confiance, faire confiance. Moi, avec mon tout petit niveau, le moment où j'ai eu l'impression de passer d'une manque de confiance et d'une crispation et d'être le dixième de ce qu'on est, c'est le moment où quelqu'un m'a fait confiance. Et je reviens à la culture. Qu'est-ce que la culture ? La culture, c'est l'inverse de la dépression. La dépression, c'est au milieu de la nuit, vous dites oh, « je suis incapable, jamais je pourrais aller jusqu'au bout de la journée qui va se préparer ». La culture, c'est l'inverse, c'est la confiance en soi-même, se dire « je suis plus grand qu'on est ». Et donc, je suis plus grand que je crois être. Et donc, c'est ce qui, j'espère, c'est ce qui va se passer avec la France. C'est-à-dire être, au lieu d'être sans arrêt dans la jérémiade, regardez, encore une fois, comparez, regardez ce qui se passe ailleurs. Pourquoi sommes-nous les plus désespérés ? C'est-à-dire les sans espérance. Mais on a tout. chez nous?
On a surtout beaucoup de chômage, beaucoup de difficultés.
Mais on a de chômage. Pourquoi on a de chômage? Parce que il y a ce gâchis formidable de tous ces gens qui ne sont pas employés. Ce gâchis formidable après une éducation nationale qui consomme le plus de crédits en proportion quasiment du monde entier, qui arrive avec 150 000 jeunes qui sortent de 10 ans d'apprentissage sans rien, sans un diplôme. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis que le chantier de base, c'est l'éducation. Éducation et culture, pour moi, c'est pareil, c'est-à-dire c'est l'accès. Comment vous imaginez que un petit Français sur cinq en classe de sixième ne maîtrise pas la langue commune? Qu'est-ce que c'est la langue commune? C'est la République. Donc, à 12 ans, ce jeune, il est assigné à résidence. Et qu'est-ce que c'est que sa résidence? C'est l'exclusion. C'est insupportable. Et là, il y a une obligation de résultat. J'en ai parlé à François Hollande, il m'a dit j'en ai fait une cause nationale. Mais on s'en fout de la cause nationale, il faut des résultats. J'espère qu'il y aura des résultats. Et moi, ce que j'aime en Emmanuel Macron, c'est que, écoutez, c'est peut-être vulgaire, mais il aime les résultats.
Vous pensez que la culture est plus importante pour lui qu'elle ne le fut pour François Hollande?
Franchement, oui. Pour François Hollande, c'était un dossier. C'est pas un dossier, la culture, c'est un élan. Ça n'a rien à voir. Et je pense que quand on veut remobiliser des forces, il faut se dire ça encore une fois. C'est-à-dire que la confiance, on peut se dépasser. On peut être là au lieu de se replier. Il y a le repli ou la confiance. Mais vous savez, une nation, c'est pas si différent qu'une personne. Et quand vous voyez le parcours d'une vie, vous, à un moment donné, quelqu'un vous a fait confiance, eh ben vous êtes déployé.
Les moustiques, personne ne leur a fait confiance et ils se sont déployés très largement.
Vous devriez faire de la radio.
On pourrait en faire ensemble, par exemple. On pourrait faire une émission sur les moustiques, par exemple.
Vous voulez, comme ça. Vous voulez dire que c'est vous qui faites le moustique, c'est moi qui fais le parasite?
Moi, je ferai la géopolitique et vous ferez le moustique puisque c'est le titre.
Oui, chacun son niveau.
Vous avez décidé donc de, j'allais dire terminer, mais je ne sais pas si vous allez la clore ainsi. Votre série sur la mondialisation, où vous avez appris en fait comment un fléau pouvait devenir un fléau mondial.
Alors c'est un fléau mondial quand vous voyez la circulation du virus Zika qui a été découvert dans une forêt d'Ouganda, qui a été en Polynésie, qui a envahi le Brésil, qui est remonté le long des Antilles. Donc on voit un peu comment ça circule avec des moments un peu tranquilles et puis d'autres moments où explose. Mais je vais continuer, vous savez, parce que je travaille beaucoup sur les fleuves. Il se trouve que j'ai la chance de présider un club d'aménageurs des grands fleuves du monde, et que les fleuves, c'est à la fois le problème, puisque on peut évidemment développer des pollutions terribles, mais c'est en même temps la solution. Et puis je travaille sur les villes, parce que il y a un être humain sur deux qui vivent dans les villes. Il y a des villes qui sont des cauchemars, et d'autres qui sont des réinventions de la vie en commun.
Les fleuves en France?
Les fleuves en France et les fleuves dans le monde.
Sais que vous intéressez aussi aux fleuves.
Mais bien sûr.
En France et à la manière.
Le Rhône, regardez ce que c'est que le Rhône. Moi, je travaille avec cette institution qui est très intéressante parce que vous avez la Compagnie nationale du Rhône. Vous avez à la fois le privé pour 49%. Ensuite, vous avez l'État et vous avez les collectivités locales. Et l'intérêt de cette société, c'est qu'elle gère l'ensemble du parcours du Rhône. Et donc, je vois le développement local. Et moi, ça me passionne de passer mon temps, pas seulement aux quatre coins du monde, mais aussi en France. Qu'est-ce que ça veut dire un fleuve? Comment est-ce qu'on irrigue? Comment est-ce qu'on fait de l'hydroélectricité responsable? Et comment on met en œuvre la transition énergétique? Donc, vous savez, c'est passionnant la vie.
Et une partie du Rhône a été rendue, en tout cas les bords du Rhône ont été rendus habitables en éradiquant les moustiques. Donc, on boucle.
Eh bien, attendez, la Camargue, on n'éradique pas, on les contrôle. On les contrôle et puis on soigne les gens. On soigne les gens parce que comme ils sont pas malades, donc quand le moustique les pique, ils avalent pas en même temps le parasite ou le virus.
Éric Orsenna, le livre que vous avez coécrit avec Isabelle de Saint-Aubin, Géopolitique du moustique chez Fayard, et puis La vie, la mort, la vie, votre biographie de Louis Pasteur qui paraît en poche, Éric Orsenna.